Yo la team, aujourd'hui vous nous rejoignez, je vais interviewer Signori Dominique Antonio, j'ai dit dans le bon sens, c'est juste
exactement,
hein, qui est là, qui nous a rejoint, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Je vais faire sa petite présentation, vous l'avez sûrement vu à la Cannes 2023, donc qui est en début d'année 2024. Joueur pour l'Angola et on va passer tout de suite à l'interview. Comment tu vas Signori?
Je vais très bien, merci. Et toi, Ulysse?
Ouais, ça va, ça va. Écoute, nous, on se connaît depuis le gymnase.
Exact.
Pour les Français qui vont nous entendre, c'est le lycée. À l'époque, la relation principale qu'on avait aussi, c'est que tu me coupais les cheveux.
Exact.
Petit coiffeur, je venais chez toi à côté d'un petit zouk, bonne ambiance.
Voilà.
Et tout. Et en fait, à côté de ça, ce que tu faisais, c'est que tu étais au gymnase en étant aussi, pas professionnel, mais
exactement,
joueur de
la
foot.
Porte, ouais, j'étais à la porte de l'équipe pro.
Ouais.
Et quand tu avais terminé ton gymnase, c'est à ce moment-là que j'ai signé mon contrat pro.
Ouais, ok. Bah, du coup, on va refaire un petit retour sur comment ça a starté. Tu as commencé jeune à Malais.
Exact. Ah,
on n'oublie pas.
Ouais.
Puis, tu as intégré la Team VO des U18 avant de starter à Lausanne Sport.
Alors, en soi, j'ai starté en moins de 14 au Lausanne Sport.
Okay.
Et en fait, à partir de moins de 16 ans, ça s'appelle Team Vaud parce qu'il y a quatre équipes qui sont partagées dans le canton de Vaud à partir de, on va dire, de moins de 14 au moins de 16.
Ouais.
C'est Team Vaud-la-Côte, Team Lausanne-Vaud, Team Nord-Vaudois pour Yverdon, mm-hmm, et Team Rivera pour Vevey et Montreux.
Okay.
Et en fait, après, les meilleurs joueurs au moins de 16 forment une team qui s'appelle Team Vaud.
Ouais.
Et pour moins de 18 aussi, c'est les meilleurs des moins de 16 qui vont aussi au moins de 18.
Ok, d'accord. Et du coup, c'est à partir de ça que tu as intégré le Lausanne Sport?
Alors, en soi, ça appartient au Lausanne Sport.
Ah, ok.
Ça appartient, on va dire, le Lausanne Sport, c'est le club le plus dominant, mm-hmm, de cette structure. Et donc, en soi, j'étais déjà un joueur du Lausanne Sport, mais appartenant au Team Vaud.
Ok, d'accord. Je vois. C'est ouais, tout un réseau, en fait.
Exactement, voilà.
Ok, ok. Et après le Lausanne Sport, tu as rejoint le Mont.
Exactement.
Et à la suite du Mont, tu as eu ta première expérience dans un club angolais.
Exact.
Voilà, tu fais une année, si je ne me trompe pas.
Alors, en Angola, je fais deux ans.
Ok.
Deux ans dans le club phare qui était Pimelo d'Agosto, donc le club du 1er août.
Mm-hmm.
Et puis voilà.
Et en 2018, tu reviens avec une nouvelle expérience au FC Bâle.
Exact.
Puis avant de retourner un peu plus tard en Angola pour une deuxième expérience.
Voilà.
C'est à Luanda cette fois-ci, non?
Exact. Bah, le premier club, le Primeiro da Gauche, c'est aussi à Luanda.
Okay.
Le second club, le Petrol Luanda, c'est le club, ouais, du pétrole. Il est aussi basé à Luanda et c'est ce deuxième club que j'ai signé.
Ok, ok. Et là, l'été dernier, tu signes à l'Étoile Carouge de Genève. Et jusque-là, tu roules ta bosse. On peut dire rien de particulier dans le sens où tu as tes expériences à gauche, à droite. Sauf qu'entre-temps, en 2014, tu as ta première sélection. En tout cas, tu es appelé avec l'équipe d'Angola.
Oui.
Là, déjà, waouh. Waouh. On est ensemble à la school et
exact.
Toi, au final, tu es sélectionné avec la nation. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, trop fier de toi, des étoiles dans les yeux et tout.
Merci.
Et c'était incroyable. Donc, comme je le dis, en 2014, tu es sélectionné et tu fais quelques apparitions. Et là, on va venir dans le vif du sujet parce que pour moi, c'est ce qui m'intéresse ici. Le 17 décembre, il y a le sélectionneur qui annonce sa liste des 23 joueurs qui iront à la CAN avec l'Angola, donc en Côte d'Ivoire, et il dévoile ton nom. J'ai cru comprendre qu'avant, il y a eu une période, peut-être les autres CAN, toi tu n'as jamais participé à aucune CAN avant.
Alors j'ai participé à la CAN,
ouais,
mais plus à la CHAN, c'était plus à la CAN pour les joueurs locaux, mm-hmm, en 2016, mais pas à la CAN, non.
Et là, donc le 17, en fait, pour toi, c'est ta première participation. Comment tu vis le moment, en fait? Déjà, où est-ce que tu étais quand tu entends la liste?
Alors, à ce moment-là, j'étais à la fin de mon championnat avec l'Étoile Carouge. On a eu presque 3 semaines de vacances et j'avais décidé avec ma compagne de rester en Suisse, pas partir en vacances parce que je privilégiais la préparation pour l'éventuel Cannes. Donc, je me suis dit, écoute, on reste ici en Suisse, mais la seule chose que je peux peut-être nous autoriser, c'est un petit week-end à la montagne. Donc, ce week-end, donc le week-end où la liste sort, on est à la montagne.
Okay.
On est posé, je crois, à 3000 mètres, presque 3000 mètres d'altitude. Et puis, il y a l'heure fatidique où la liste, elle sort. Et puis, bah, au moment que je vois mon nom apparaître sur la liste, ouais, bah, j'étais content et j'ai partagé ce moment avec elle.
Ok, incroyable. Enfin, tu vois ça, tu te dis là, je vais vivre la CAN.
Ouais, c'est ça. C'est qu'avant tout, tout ce qui est aspect médiatique et autres, ouais, humainement, c'était un rêve d'enfant.
Mm-hmm.
Qu'on voyait les CAN, je te dis l'exemple, en 2008, au Ghana, il me semble, où tu vois, limite, il y avait l'herbe qui était tellement haute qu'on ne voyait pas les crampons des joueurs. Ou bien, quand tu vois avec tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, avec le Vuvuzela et toute l'ambiance qu'il y a et toute, ouais, l'attraction qu'il y a,
ouais,
autour de la CAN.
En tant qu'Africain, joueur, tu as envie de le vivre.
Exact.
Ouais, c'est ça.
Franchement, et même si je ne devais pas la jouer, j'aurais été tellement fier de faire partie de cette aventure, de voir,
ouais,
en fait, ces moments avant les matchs, durant les matchs et après, donc tout cet engouement.
Là, quand tu rejoins, tu vas avec un groupe que tu connais partiellement ou, on va dire, dans l'ensemble?
Dans l'ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les 23 joueurs qui étaient convoqués, il y en a 10 avec qui j'ai joué en club.
Okay.
Soit avec Primeiro da Gauche, tout, quand j'étais allé, et puis le Petro Luanda.
Okay.
Donc, ces deux clubs où j'ai été champion en Angola, bah, c'est avec ces joueurs-là que j'ai été champion.
Ok, ouais.
Et ensuite, parmi ces 10, bah, certains aujourd'hui ils jouent en Europe, d'autres ils jouent dans les Émirats, etc. Et les restes, les 13, il y en a, c'était aussi des adversaires du championnat angolais.
Ok, ouais.
Et puis, on n'était que 3 joueurs dans la liste des 23 que quand j'étais en 2014, j'avais accepté ma première sélection. Bah, ces deux autres joueurs figuraient déjà dans la liste. Donc, on était 3 depuis 10 ans à être restés. Dans la sélection.
Ok, ok. Et là, nous, on va aller à ce qui nous intéresse, hein, l'expérience même donc, de la CAN. Avant qu'elle commence, toi, tu sais que tu n'es pas titulaire et tu n'as pas été non plus dans les matchs de préparation. C'est Neblou qui est capitaine aussi?
Non, il n'est pas le capitaine.
Il a pas été capitaine à un moment durant la CAN?
Non, il n'a pas été, non.
Ok. Je suis mal informé, en tout cas, sur ce point-là.
Pas de souci.
Mais voilà, en tout cas, c'est lui qui est dans les buts en match de préparation et tout au long de la compétition. Et du coup, lorsque vous startez la CAN, c'est quoi un peu je ne parlerai pas juste des consignes dans le vestiaire, mais qu'est-ce que la fédération, elle attend de vous? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait?
À vrai dire, la préparation de la CAN, elle s'est passée à Dubaï.
Ouais.
Et lorsque c'est passé à Dubaï, on a eu 2 matchs amicaux, un contre la RDC et un autre contre le Bahreïn. Et en fait, la première semaine du match contre la RDC, le gardien titulaire Neblou, il était absent. Il n'était pas là les 4 premiers jours parce qu'il avait un problème de visa. Donc, en soi, on n'était que 2 gardiens. Et là, bah, moi, comme je m'étais bien préparé l'hiver, bah, j'ai pu faire, on va dire, bah, j'ai commencé la semaine avec l'autre gardien et j'étais bien physiquement, j'étais prêt. Et quand il arrive à la veille du match, finalement, bah, le coach décide de faire jouer.
Ouais.
Donc, c'est moi qui ai joué le premier match de préparation contre le Congo RDC. On fait 0-0. Ça se passe bien. Il y a des bonnes sensations. Et après, contre le Bahreïn, c'est lui qui a joué. On gagne 3-0 à la mi-temps. Et puis, l'entraîneur, il décide de faire jouer comme l'autre gardien pour le faire aussi participer dans le groupe. Et à ce moment-là, on ne sait pas quand même qui va commencer la CAN.
Ah, ok, d'accord.
Qui va commencer la CAN parce qu'on se dit, bon, j'ai fait un match de préparation,
c'est bien passé,
j'ai pas pris de but. Et puis, peut-être, lui aussi, il se dit, bah, il a partagé une mi-temps avec l'autre gardien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que... Mais en soi, c'était légitime qu'il participe, lui, qu'il soit titulaire à la CAN, étant donné que c'est lui qui a fait toutes les matchs de qualification.
Mm-hmm.
Et même avant ça, on avait 2 dates FIFA, on était pour des matchs de qualification Coupe du Monde, où c'est lui qui a joué 90 minutes 2 fois. Donc, c'était légitime que lui commence. Mais il y a eu un petit moment
de doute.
De doute.
Tu es venu, t'as imposé ça.
Voilà.
Ok, ok. C'est fou parce qu'on n'a on a pas ce genre d'infos.
Exact.
Entendu, hein, nous, à l'extérieur, ouais, on voit juste qu'il y a un joueur qui est... Il y a un gardien qui est titulaire et les autres qui attendent leur tour patiemment, mais qui mettent bien la pression derrière, voilà. Que ce soit aux entraînements ou aux matchs de préparation, comme tu l'as dit. Et puis là, en fait, on entre dans la CAN. Vous avez votre premier match contre l'Algérie. Algérie champion en 2019, si je ne me trompe pas. Ouais, 2021, ils sortent au premier tour. Et contre l'Algérie, vous faites un pur match. En tout cas, ressenti en tant que spectateur, vous faites un vraiment bon match. Et à la suite de ce match-là, vous marchez sur la Mauritanie. Et troisième match, je ne me souviens plus exactement, mais vous gagnez en tout cas...
Burkina Faso.
Burkina Faso, exactement. Et vous finissez premier.
Ouais.
Et là, en fait, vous passez... aux yeux de beaucoup de monde, de un peu le nobody à « Ah ouais, là, c'est un peu l'équipe à battre. » Comment vous, en fait, est-ce que dans les vestiaires, dès que vous finissez premier, il y a eu plus de pression, des consignes qui ont changé ou comment ça s'est passé?
C'est vrai que dans la question précédente, tu m'avais posé quels étaient les objectifs de la fédération.
Ouais.
C'est vrai que je t'ai pas répondu. Mais c'est à cause d'être à Dubaï, donc lors du stage de préparation, il y a le coach, on fait une séance, une conférence, où on est entre nous, on discute, et il émet nos objectifs pour la CAN. Déjà, on regarde nos forces et faiblesses, et puis dans les objectifs, l'Angola, l'équipe nationale de l'Angola, n'avait jamais gagné plus d'un match dans une compétition africaine, c'est-à-dire à la CAN. Donc on va dire qu'il n'avait jamais gagné plus d'un match. Donc, en soi, ça veut dire que sur une phase de poule, il y a trois matchs.
Ouais.
Et puis, le plus loin que l'Angola a été, c'était quart de finale, mais en n'ayant gagné qu'un seul match.
Ouais. Et surtout qu'en plus, à l'époque,
il y avait, que 16 équipes.
Exactement. Donc, après les poules, c'était directement les quarts.
Exactement.
Ouais.
Et en soi, l'objectif était de gagner plus d'un match et aussi de gagner un match de phase finale à élimination directe.
Okay.
Donc, qui était soit en huitième de finale. Donc, c'était les objectifs qu'on avait entre nous à Dubaï. Et c'est vrai qu'au début de la compétition, il y a eu un article ou une liste qui a été faite des équipes qui avaient le plus de probabilité de gagner la CAN.
Ouais.
Et c'est quel monde de probabilité. Et nous étions arrivés avant dernier. Et là, il y a le coach. Même si on ne fait pas très attention aux médias, mais c'était quand même un truc assez flagrant parce qu'on voit quand même qu'on est avant dernier. Et le coach dit... Regardez à l'échelle du monde où les gens nous voient. Et d'un côté, il y a un côté avec de l'ego et puis de la fierté. On se dit non, on va leur montrer le contraire et on sait de quoi on était capable. Surtout que notre historique, sur les 10 derniers matchs, on prenait peu de buts.
Ouais.
On était bien organisé défensivement. Par contre, on en marquait peu.
Mm-hmm.
Et c'est là aussi où nos objectifs, c'était de marquer des buts durant la compétition. D'ailleurs, on a fini avec la meilleure attaque.
Non, mais là, dans les groupes, vous avez tout cassé.
Oui, on a fini la meilleure attaque avec 9 buts avec la Guinée équatoriale.
Ouais.
Et donc, notre objectif, c'était de changer tout ça, en fait, de chambouler. Donc, même quand on joue contre l'Algérie, il y a les journalistes qui nous posent des questions. L'Angola marque peu. Ouais. Comment vous allez faire?
Ça, c'est les journalistes locaux.
Les journalistes locaux, les journalistes algériens. Et on savait de quoi on était capable. On avait nos objectifs internes qui étaient déjà fixés entre nous. Donc, c'est ça, quand on est arrivé premier du groupe, on était certes un peu surpris, on ne va pas se mentir, mais on savait de nos forces et nos faiblesses. Et c'est vrai qu'on a pu justifier ça et montrer aux yeux du monde qu'on était capable d'être une équipe compétitive et redoutable.
Et on se demandait, j'ai dit « on », c'est notamment l'équipe de kick-off. Comment on vous prépare en fait à l'éventualité de rentrer en tant que gardien remplaçant, par exemple, à la CAN? Est-ce que vous avez une préparation psychologique pour vraiment être prêt ou en tant que gardien, on sait que ce n'est pas un remplacement qui généralement se fait à moins qu'il y ait un souci ou une blessure, un carton rouge, ce genre de choses. Oui. Est-ce que la chose, tu es toujours prêt psychologiquement ou ça tombe un peu dessus voilà, je dois rentrer. Comment ça se passe?
Alors, je veux dire déjà d'un point de vue, sur plusieurs points de vue, le point de vue physique, je vais commencer, où l'entraîneur des gardiens, on soit d'un point de vue physique ou d'échauffement, on est préparé aussi pour rentrer au cas où. C'est-à-dire que le gardien titulaire, il fait peut-être 4 répétitions sur un exercice et nous, on en fait 2. Que ce soit le deuxième et le troisième gardien, on fait 2 répétitions chacun. Et ensuite, un peu sur des centres aussi, s'ils en ont fait 8, ben nous, on va en faire peut-être la moitié. Et d'un point de vue physique, on est déjà prêt lors de l'échauffement
ouais.
pour pouvoir rentrer parce qu'on a travaillé un peu les aspects qui peuvent se présenter en match, soit des frappes, soit du jeu au pied, soit ça des centres. Donc ça, on est préparé. Après, d'un point de vue psychologique, il nous dit aussi que bah, il faut être prêt si jamais l'un nous doit rentrer et qu'on soit, nous sommes les trois, on va dire, nous formons qu'un. C'est-à-dire que celui qui joue, bah, il représente aussi des autres.
Les deux autres, ouais.
Voilà. Et d'un point de vue aussi, je pourrais dire, mental, après personnel, chacun, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font les autres gardiens, mais moi, en tout cas, ce match ou le match auquel j'ai dû rentrer, pour être plus précis, mais chaque match, je les prépare. C'est-à-dire que je vais toujours regarder l'adversaire de moi-même parce qu'on avait la chance d'avoir les télés dans les chambres et puis on voyait les matchs passer à répétition.
Mmh.
Et c'est vrai que là, j'ai regardé bah, les équipes auxquelles on les jouait, je regarde un peu leurs forces et faiblesses. J'avais ma propre analyse. De peut-être réfléchir à comment sortir de leur pressing, si c'est une équipe qui fait du pressing, si c'est une équipe qui avait habitué à faire, on va dire, bah, du jeu long, comment couvrir les espaces. Ouais. Donc, je m'adapte en fonction de l'adversaire, j'arrivais à me faire ma propre analyse. Et ensuite, on a quand même la veille du match, le jour du match, l'entraîneur et le staff technique nous passent quand même une vidéo des forces et faiblesses de l'adversaire.
Donc, tu dis quand même, c'est aux gardiens qui sont remplaçants.
Alors non, là, c'est l'équipe totale. Okay, toute l'équipe, totale. On ouais. a quand même une séance vidéo
ouais.
de l'équipe adverse avec mmh. leurs forces et faiblesses. Et là, il y a des séquences qui vont être quand même données, mais ce n'est pas autant spécifique que peut-être moi, je peux le faire ou que l'entraîneur des gardiens aussi peut nous passer si, par exemple, il y a les pénaltys.
Mmh.
Lui aussi, il nous envoie à chacun les probabilités que le joueur peut tirer. Ou les côtés, il est pour que j'aurais pu tirer. Donc, il y a plusieurs aspects
ouais.
qui font que quand on arrive le jour du match, bon, en fait, on est préparé physiquement, on est préparé mentalement par l'entraîneur des gardiens, on est préparé par le staff technique lors de la séance de vidéo qu'il a pu avoir la veille ou deux jours avant, et aussi d'un point de vue personnel, avec aussi peut-être ces observations que j'ai pu faire, et puis aussi avec un objectif personnel de peut-être okay. dire faire la différence ouais. et faire un bon match.
Ouais, ouais. Ok, et donc ça, du coup, indépendamment que tu sois titulaire ou...
Exactement, c'est indépendamment d'être titulaire ouais. ou pas, je me prépare de la même manière comme si je vais jouer.
Ouais, ouais, ok, d'accord. Là, je vais te montrer une photo que je vais d'abord montrer au public. Je te montre cette photo. Ça, c'est le moment, c'est un moment phare. C'est le moment où tu rentres sur le terrain après que votre gardien titulaire ait pris carton rouge, donc en phase éliminatoire à match mmh. élimination directe.
Mmh.
20e minute de jeu, je crois, milieu de première mi-temps.
Mmh.
Ça, c'est toi. Qu'est-ce que, à ce moment-là, précis, concrètement, qu'est-ce qui te passe par la tête, concrètement? Si tu te souviens.
À ce moment-là, bien sûr, je me rappelle. À ce moment-là, je me dis, OK, on perd 1-0. On perd 1-0, pardon.
Non, il y avait 0-0.
0-0. Ouais. À ce moment-là, je me dis, on est avec un joueur en moins, ouais. pardon. On est à 10 contre 11. Et je me dis, OK.
Tu rentres dans des conditions
qui sont pas optimales. Je me dis, voilà, il y a un coup franc ouais. qui est quand même dangereux.
Ouais.
Et je me dis, mais si on soit... On gagne ce match, par la logique, j'ai des fortes chances de jouer le suivant.
Mm-hmm.
Donc, je me dis, c'est le moment.
Ouais.
C'est maintenant, c'est toute la préparation et sacrifice. C'est maintenant où il faut saisir l'opportunité de déjà pas prendre de but.
Ouais.
Et puis, de se dire que si on ne prend pas le but, ça va peut-être donner un peu de confiance à l'équipe. Et puis, d'essayer de faire le dos rond, comme on dit en foot. Et puis, d'essayer de faire le max pour ne pas prendre de but et en marquer. Hein.
Mm-hmm.
Donc, ça me rend vraiment précis. Je me dis, c'est, voilà, il faut arrêter le coup franc.
Ok, là, tu es focus 200%.
Voilà. Là, c'est focus. Là, c'est, voilà, c'est d'autres thèmes. C'est ouais. Focus, c'est, je me dis, il faut pas prendre le but. Et surtout, de bien faire et espérer gagner parce qu'il y avait cette possibilité de jouer le suivant si on gagnait.
La suite, on la connaît, hein. C'est sur ce coup franc même, tu nous fais un arrêt de ouf. Un arrêt, il est passé sur tous les réseaux, Insta, les gens, ils le mettaient en story et tout ça. Et au final, tu sors un des matchs de ta life. Si je ne me trompe pas, tu finis homme du match.
Alors non, je ne finis pas homme du match, mais je fais parmi les meilleurs arrêts
okay. des 8. Ah oui, finale. Meilleur arrêt, pardon. Ouais, meilleur exactement, arrêt, meilleur arrêt, pardon, pas homme du match.
Ouais.
Et nous, ici, en fait, je vais t'expliquer comment nous, on a okay. vécu la chose. Au moment où tu rentres, c'est comme si il y a un peu un message ici qui se transmet à tous. Tu sais, nous, ici, à la CAN, on est tous contents, mais c'est chacun pour soi. Tu vois, c'est chacun pour sa nation. On se supporte un peu de loin, vite fait. Ah, OK, d'accord, vous avez bien performé, bien joué, on attend juste de vous rencontrer. Mais quand tu rentres, c'est comme si à Lausanne, on a eu le sentiment qu'il y a un message qui s'est propagé. Les gars, Signori, il est en train de jouer là. Tu apparais dans les stories. Tu as des gens, littéralement, ils te voient rentrer et crient. Moi, je suivais un peu le score de loin. J'entends que tu rentres, je ne sais plus comment je reçois l'information. Je prends la télécommande, je vais mettre le match. Il y a vraiment un engouement qui s'est créé. Et à la fin du match, je pense que le nombre de notifications que tu as dû recevoir, le nombre de stories dans lesquelles tu étais, en tout cas dans lesquelles moi je t'ai vu, il y avait vraiment un sentiment de fierté. Il y avait vraiment une effervescence et c'était beau à voir, j'ai trouvé. Et on te soutenait tous. Indépendamment de chacun, lui, il vient de tel pays, son pays est encore en lice et tout. Et ça, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Maintenant, toi, à la fin de ce match, comment tu vis comment en fait ce match après que le match soit fini?
Bah voilà, comme déjà pour commencer, bah je remercie déjà toutes ces personnes.
Ouais.
Comme j'ai l'occasion de le faire maintenant, parce que je l'ai fait à titre personnel. Je remercie toutes les personnes parce que c'est la plupart d'entre nous, bah certes, on habite dans la même ville, même les deux, on a été dans le même lycée ou même gymnase. Mmh. Et puis d'autres, j'ai joué avec eux au foot quand on était plus jeunes. Des fois, on se croise, en début de soirée, en fin de soirée, ça dépend les lieux. Mais je les remercie parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de dire bravo. On n'a pas l'occasion de soutenir. C'est vrai que même si c'est les réseaux sociaux, mais je les remercie parce qu'ils ont quand même pensé à moi. Parce qu'ils ont quand même eu...
Ça, on a donné la force comme Son Goku, là.
Ouais, comme ça. Pour la boule, c'était quoi?
Universelle. C'est
fou. Tous les mains en l'air. C'est non, fou. Mais c'est vrai que par rapport à ça, je les remercie. Et d'ailleurs, à chaque fois que je croise ces gens en ville ou ailleurs, toujours, ils me soutiennent, ils me demandent comment c'est au niveau de ma carrière. Donc, je suis quand même reconnaissant envers eux. Et donc, je profitais, cette occasion pour le faire. Et après, dans ta question,
c'était le sentiment.
Alors, à titre personnel, je suis croyant, pratiquant de confession, on va dire christianisme, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai une relation individuelle avec Dieu. Et le premier truc qui me ressort à la fin de ce match, c'est que je vais me rapprocher encore plus de toi. Parce que je me dis que, l'espoir ou la chance que j'avais de pouvoir déjà être sélectionné, parce qu'au vu du club où je suis, pas forcément au vu de mes capacités, mais au vu de la club, était déjà un peu minime.
Mm-hmm.
Et le fait encore de jouer, c'est encore autre chose. Et en fait, le fait d'avoir joué et aussi, je peux le dire, bien joué, d'avoir gagné, d'avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé avec la fédération de passer ce match à élimination directe alors qu'on était à 10.
Ouais.
En fait, c'était parfait.
Ouais. C'est comme si c'était écrit, en fait.
C'était, voilà. Donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là, je me dis qu'il y a une part de divinité quand même qui a pu aider à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est pour ça, ce sentiment de gratitude et de rapprochement, de dire non, merci.
Ouais.
Donc, si tu peux faire des choses comme ça dans ma vie, alors je dois être encore plus assidu et être plus proche de toi, okay. essayer d'être plus proche de toi, ouais, parce que ouais. chacun de nous, voilà, on n'est pas parfait, mais mm-hmm. c'est là où j'ai eu... Le premier feeling, c'était ça.
Ok.
C'était vraiment ça.
Incroyable.
Ouais.
C'est fou. Et voilà, pour rebondir sur la suite, vous jouez un quart de finale mémorable contre le Nigeria. Malheureusement, l'aventure, elle se termine là.
Ouais.
Mais l'aventure, elle se termine là, mais objectif atteint, comme tu as dit.
Voilà.
Quand vous rentrez au pays, moi, j'ai pu voir quelques vidéos, mais dis-nous, comment ça se passe, le retour au pays?
C'est un moment de partage où on a vu vraiment tout le peuple super fier de nous.
Mm-hmm.
Du moment qu'on est arrivé à l'aéroport, dans le hall, il y avait, je ne sais même pas le nombre de journalistes, le nombre de personnes ouais. qui étaient là. Qui prenaient des photos avec nous, etc.
Donc, vous arrivez combien de jours après?
Alors, on était le dernier match, je pense, c'était vendredi. Ouais. On a voyagé, on est arrivé dimanche
okay.
à Luanda. Malheureusement, on est arrivé sur la fin de journée.
Ouais.
C'est un détail qui sera intéressant parce que je vais suivre ce que je veux dire. Alors, parce que de base, c'était prévu qu'on arrive en début d'après-midi parce qu'en Afrique, il fait déjà nuit à partir mm-hmm. de, je crois, 18h.
Ouais, ouais, ouais.
Et en fin de compte, quand on arrive sur place, donc, il y a tout cet engouement populaire. Et on voit en fait la joie qu'on a pu transmettre on va dire, au peuple.
Mm.
Et il y a cette fierté de voir qu'il y a un char qui était préparé, on est monté sur le toit, il y a de la musique.
Moi, ce que j'ai vu, on dirait que vous aviez gagné la CAN.
Bah ouais.
Je me dis, si vous aviez gagné la CAN, ah, vous auriez retourné le pays.
Bah ouais, c'est ça, bah, en
c'est,
fait.
Bah, c'est ouf.
C'est qu'il y a cette réalité-là. C'est comme j'expliquais que l'Angola, ça faisait l'équipe nationale du foot d'Angola, ça faisait depuis des années qu'elle n'avait plus donné de plaisir
ouais.
à la nation. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on n'avait pas des résultats autant alléchants. Et puis, bah, c'est logique, comme dans partout, même en Europe, hein, ça soit pour des clubs et pour des sélections, c'est les résultats qui amènent le monde. Et en soi, bah, le fait d'avoir fait un bon parcours et surtout d'avoir atteint les objectifs que nous s'était fixés et surtout d'avoir eu pour la première fois de l'histoire de l'équipe nationale de l'Angola une première place à ouais. la phase de groupe et ce match à animation directe, bah, en soi, c'est vrai que c'était notre victoire à nous. Donc, c'était le meilleur parcours de l'histoire de l'équipe de l'Angola ouais. pour la CAN. Parce que, attention, on n'a pas fait encore de Coupe du Monde comme l'Angola avait pu faire. Mais pour dire que pour la CAN, c'était historique. Et donc, ouais, les gens nous ont accueillis comme il fallait. On a fait vraiment tout un parcours, c'est-à-dire ouais. de l'aéroport jusqu'à...
Cortège.
Un cortège exact, ouais. jusqu'au bord de... Au bord de... Voilà, genre au bord de l'océan, parce qu'on a aussi des plages en Angola. Et il y avait aussi toute une scène qui était préparée pour nous, un discours du gouverneur et d'un ministre des sports. Non, c'était...
Ah ouais.
Ah ouais.
Carré, hein.
Non, c'était carré, ouais.
OK, OK. Là, donc, l'après Cannes, t'as vécu un mois d'effervescence.
Ouais.
Ambiance, tout. Comment tu reviens de ça? Comment se fait la transition entre la CAN et la Promotion League?
Alors, déjà, il faudrait que tu... C'est un détail que peut-être les gens ne savent pas, mais j'ai eu la chance aussi que dans mon équipe, j'avais mon entraîneur qui m'appelait chaque 3-4 jours.
OK.
Donc, pour savoir comment je allais d'un point de vue physique
ouais.
et puis aussi mental, etc. Mon entraîneur de gardien aussi m'appelait souvent en veille de match ou le jour du match pour savoir comment je vais.
Mm-hmm.
J'ai eu des messages aussi de mes coéquipiers et d'autres membres du staff. Donc, j'ai vraiment eu un support durant la compétition. Ils m'ont accompagné,
ouais.
les joueurs.
Ouais.
Ils ont même fait une fois une vidéo pour me soutenir avant un match. Donc, ils m'ont quand même accompagné. Donc, quand je suis revenu, en fait, c'est comme s'ils étaient toujours avec moi.
Okay.
C'est ça comme ça.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, il y a quand même eu un bel accueil, etc. Donc, non, franchement, c'était le retour, il s'est bien fait. Et puis, je sais que bah, c'est ma réalité aussi. Hein, mm-hmm. On ne va pas se mentir. Donc, non, bon retour.
OK. Bonne transition.
Ouais.
Smooth. OK. D'ailleurs, si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'à la suite de la compétition, été approché par soit des agents ou d'autres clubs, enfin, est-ce que ça a généré quelque chose en termes d'attrait de ton
oui,
côté?
Oui, bah, bien sûr. Bah, de base, avant que je participe à la CAN, j'étais déjà lié avec une agence qui est basée ici en Suisse.
Mm-hmm.
Et sur place, c'est vrai que j'ai eu des contacts avec d'autres agents qui étaient intéressés de travailler avec moi. Mais après, voilà, j'aime bien, on va dire, respecter dire mes contrats, ça, comme ça. Et puis surtout, bah, respecter la personne avec qui je travaille. Donc pour le moment, bah, j'ai dit, bah, faut regarder avec lui. Mm-hmm. Et puis,
t'es là où t'es, pour exactement. Toi, tu continues à, on verra à faire ce
pour,
que t'as
exactement, puis ouais. On verra pour la suite.
Ok, ok. Bah, du coup, ça allait être ma question un peu. C'est quoi la suite? Enfin, quels sont tes objectifs à court terme? Si tu aimerais les dévoiler ou pas?
Ouais, je peux. De toute façon, j'ai rien à cacher aujourd'hui avec Internet. On peut voir la durée de mes contrats, mm-hmm. etc. Donc, moi, de toute façon, je suis lié avec l'Étoile Carouge jusqu'à la fin de cette saison. On a eu peut-être une option en cas de montée. Mon objectif principal, bah, c'est d'atteindre les objectifs du club.
Ouais.
Et puis, d'un point de vue personnel, bah, c'est d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire d'être le plus longtemps dans le circuit.
Ouais.
Parce que j'ai déjà été dans ma carrière en dehors du circuit,
hors circuit
mm-hmm. c'est pas non plus évident. Mm-hmm. Mais à chaque fois, j'étais confiant de mes capacités, je me suis donné les moyens, j'ai investi pour que je revienne dans le circuit.
Et il faut voir ce que ça donne. Hein,
Voilà.
Donc, enfin, t'es chaud, je crois.
Ah, merci. Non, mais... À vrai dire, c'est ça, c'est rester le plus longtemps possible dans le circuit. Ouais. Si c'est rester dans l'équipe à laquelle je suis, parce qu'il y a quand même la confiance du staff, des dirigeants, bah, ça va être dans cette équipe. Mm-hmm. Si c'est ailleurs, bah, c'est une histoire de voir avec les agents. Mais voilà, aujourd'hui, je rêve de jouer même Ligue des Champions européenne. Hein. Ouais, je l'ai joué à l'Africaine, donc pourquoi pas jouer l'Européenne.
Mmh,
je sais que j'ai confiance dans mes capacités. Après, c'est comme dans tout. Hein.
Ouais.
Faut voir qu'il y a des gens bah, qui misent sur toi. Et puis, et puis voilà. Mais je prends les choses jour après jour, saison après saison, puis on verra.
Ok. Là, on arrive gentiment à la fin de l'interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Signoret?
Bah,
moi, je te souhaite de jouer à la Champions League. Là, tu viens de dire dans tous les cas. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
J'ai cité avant la Champions League pour dire une compétition, mais voilà, qui est en club, hein, comme avec la Fédé, avec l'équipe nationale, si on peut faire une Coupe du Monde, ça serait magnifique.
Ouais.
Voilà, étant donné que maintenant, il y a plus d'équipes africaines qui peuvent aussi y accéder. Mais honnêtement, c'est d'être en bonne santé.
Ouais.
Parce que sans la santé, on ne peut rien faire.
Ouais.
Je ne peux pas jouer au foot si je suis blessé. Si, mm-hmm. Voilà. Et surtout, de rester plus longtemps dans le circuit.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment, jouer le plus longtemps possible en étant en bonne santé. Voilà.
Aujourd'hui, tu as 29 ans.
Exact.
Moi, je te souhaite d'être en bonne santé.
Merci.
Je te souhaite de rester dans le circuit et de faire comprendre, de montrer ton potentiel au max que tu le peux. Avec la santé, ça te permet de montrer le plus possible et que tu puisses atteindre tes objectifs personnels. J'ai une toute dernière question.
Bien sûr.
C'est quoi ton club de cœur? Là, c'est libre, c'est que ce soit depuis que tu es tout petit, c'est pas forcément là où tu as envie d'aller, ou on sait jamais, mais et attention, juste me dis pas Arsenal, parce que là, on va mettre fin à l'interview.
Ça va sembler bizarre, mais depuis que je suis petit, j'ai jamais eu un club de cœur.
Ok.
Après, j'ai eu des phases où j'ai apprécié des équipes. Par exemple, j'ai eu la chance de jouer avec Pascal Fendeno, qui était à la Saint-Etienne,
où
ils étaient en attaque avec Piquion, Nicolas Marin qui jouait avec lui aussi.
C'était trop grave.
C'était une équipe que j'avais. C'était une équipe qui me faisait rêver.
Mm-hmm.
Après, j'ai eu aussi une période de l'Ajax Amsterdam,
mm-hmm.
où j'ai toujours aimé leur jeu depuis derrière, l'utilisation du gardien de but, le Barça aussi de Guardiola. Aujourd'hui, il y a City qui propose un football, je pense, qui est le plus beau à mes yeux.
Top notch, ouais.
Voilà. Il y a aussi Brighton, par exemple, aujourd'hui. Ouais. Qui est... Donc, en soi, je ne peux pas te dire une équipe.
OK.
Malheureusement, je n'ai pas une équipe que je suis fan.
C'est plutôt... Tu as un attrait à des styles de jeu.
Ouais, un style de jeu, exactement. Okay, ouais. Voilà, c'est okay. ça.
D'accord. Bon, la réponse est valide. En tout cas, Signoret, merci pour l'invite. Merci pour l'interview, pardon.
Merci,
merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. J'ai pris énormément de plaisir déjà à te revoir de nouveau et à apprendre tout ça. Je pense que c'est des questions aussi que pour beaucoup on se pose et que des fois on n'a pas forcément l'occasion de les poser à des joueurs pro et en circuit et tout ça. Et ouais, merci de ton temps et de ta disponibilité. On te souhaite tout le meilleur.
Merci à toi.
Et à toi, mec.
Je te souhaite aussi tout le meilleur à Kickoff.
Yes, sir. C'est la fin de l'épisode, les gens. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on compte sortir plein d'épisodes de différents types de formats, dont celui-là. Je vous dis à très bientôt, les amis. À ciao.
Au revoir.